Voilà une question à laquelle je ne puis répondre que par une comparaison. Ce n'est pas pourtant ta coutume, Socrate, ce me semble, de parler par comparaison. Fort bien, tu me railles, après m'avoir engagé dans une discussion aussi difficile. Écoute donc cette comparaison, et tu verras encore mieux mon peu de talent en ce genre. Le traitement qu'éprouvent les sages dans les États est quelque chose de si fâcheux qu'on ne voit rien de semblable, et que, pour en donner une image exacte et qui serve à leur justification, il faut la composer de plusieurs traits différents, à la manière de ces peintres qui nous représentent des animaux, moitié cerfs et moitié boucs, et d'autres assemblages monstrueux. Figure-toi donc un patron d'un ou de plusieurs vaisseaux, tel que je vais te le décrire. Plus grand et plus robuste, il est vrai, que tout le reste de l'équipage, mais un peu sourd, y voyant assez mal et n'entendant pas mieux l'art de la navigation. Les matelots se disputent entre eux le gouvernail. Chacun d'eux s'imagine qu'il doit être le pilote, sans avoir aucune connaissance du pilotage, et sans pouvoir dire sous quel maître ni dans quel temps il l'a appris. Bien mieux. Ils prétendent que ce n'est pas une science qui puisse s'apprendre, et si quelqu'un s'avise de dire le contraire, ils sont tous prêts à le mettre en pièces. Sans cesse autour du patron, ils l'obsèdent de leurs prières et emploient tous les moyens pour le décider à leur confier le gouvernail. Ceux qui sont exclus tuent ou jettent hors du vaisseau ceux qu'on leur a préférés. Ensuite, ils s'assurent de l'excellent patron, ou en l'enivrant, ou en l'assoupissant avec de la mandragore, ou ils s'en débarrassent de toute autre manière. Alors, maître du vaisseau, ils se jettent sur les provisions, boivent et mangent avec excès, et conduisent le vaisseau comme de pareils gens peuvent le conduire. Ce n'est pas tout. Quiconque sait les aider à prendre le commandement par la persuasion ou par la force, il le loue. Il l'appelle un marin habile, un maître dans tout ce qui regarde la navigation, et il méprise comme un homme inutile celui qui se conduit autrement. Ils ne comprennent pas qu'un vrai pilote doit étudier les temps, les saisons, le ciel, les astres, les vents et tout ce qui appartient à cet ordre de connaissances, s'il veut bien diriger un vaisseau. Et quant au talent de le gouverner, qu'il y ait ou non opposition, ils ne croient pas qu'il soit possible de le joindre à toute cette science et à tant d'études. Ne penses-tu pas qu'en pareille circonstance, des matelots ainsi disposés regarderont le vrai pilote comme un homme qui perd son temps à contempler les astres, et comme un bel esprit incapable de leur être utile? Je le pense, Socrate, oui. Tu n'as pas besoin, je crois, de voir cette comparaison développée pour y reconnaître l'image fidèle du traitement qu'éprouvent les vrais philosophes dans les divers états. Et j'espère que tu comprends ma pensée. Oui, Socrate. Présente donc cette comparaison à celui qui s'étonne de ce que les philosophes ne sont pas honorés dans les États, et tâche de lui faire concevoir que, s'il l'était, ce serait une merveille bien plus grande. Oui, je n'y manquerai pas. Dis-lui qu'il ne se trompe pas en regardant les plus sages d'entre les philosophes comme des hommes inutiles à l'État, mais que néanmoins, ce n'est point à eux qu'il faut s'en prendre de leur inutilité, mais à ceux qui ne veulent pas les employer. Il n'est pas naturel, en effet, que le pilote prie l'équipage de se mettre sous son commandement, comme il ne l'est pas que les sages aillent attendre à la porte des riches. Celui qui a dit ce bon mot s'est bien trompé. La vérité est que, riche ou pauvre, quand on est malade, il faut qu'on aille frapper à la porte du médecin. Qu'en général, quiconque a besoin d'être gouverné doit aller chercher celui qui peut le gouverner, et non que ceux dont le gouvernement peut être utile aux autres les prient de se remettre entre leurs mains. Ton homme ne se trompera donc point en comparant les politiques qui sont aujourd'hui à la tête des affaires aux matelots dont je viens de parler. Et ce qu'ils traitent de gens inutiles et perdus dans les astres, aux véritables pilotes. Très bien. Il suit de là qu'en pareil cas, il est difficile que la meilleure profession soit en honneur auprès de ceux qui en ont de tout opposé. Mais une cause plus grave et plus puissante du décrit de la philosophie, ce sont les hommes qui se donnent pour philosophes et qui, selon toi, font dire à l'ennemi de la philosophie que la plupart de ceux qui s'appliquent à cette étude sont des hommes pervers et que les plus sages sont tout au moins inutiles. Toute chose dont je suis convenu avec toi. Dis, n'est-ce pas cela ?
Tout à fait.
Ne venons-nous pas de voir la raison de l'inutilité des vrais philosophes ?
Oui, Socrate.
Veux-tu que nous cherchions maintenant la cause inévitable de la perversité du plus grand nombre, et que nous tâchions de montrer, s'il est possible, que la faute n'en est point à la philosophie ?
J'y consens.
Eh bien, reprenons ce que nous disions quand cette digression a commencé. Rappelons-nous quelles qualités il est nécessaire de recevoir de la nature pour être un jour un véritable sage. La première est, s'il t'en souvient, l'amour de la vérité qu'on doit rechercher en tout et partout. La vraie philosophie étant absolument incompatible avec l'esprit d'imposture.
C'est ce que tu disais.
Mais cette opinion n'est-elle pas bien différente de celle qui domine aujourd'hui ?
Assurément, Socrate.
Mais n'aurons-nous pas bien raison de répondre que celui qui a le véritable amour de la science aspire naturellement à l'être, et que loin de s'arrêter à cette multitude de choses dont la réalité n'est qu'apparente, son amour ne connaît ni repos ni relâche, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à s'unir à l'essence de chaque chose par la partie de son âme qui seule peut s'y unir à cause des rapports intimes qu'elle a avec elle. De telle sorte que cette union, cet accouplement divin, ayant produit l'intelligence et la vérité, il atteigne à la connaissance de l'être et vive dans son sein d'une véritable vie, libre enfin des douleurs de l'enfantement.
Oui, cette réponse est bien légitime.
Se peut-il qu'un tel homme aime le mensonge, ou plutôt ne le haïsse pas ?
Il le déteste, bien sûr.
Et quand c'est la vérité qui ouvre la marche, nous ne dirons jamais, je crois, qu'elle mène à sa suite le cortège des vices.
Non, sans doute, Socrate,
mais qu'elle marche toujours avec la pureté des mœurs et la justice accompagnée de la tempérance.
Fort bien, oui.
Qu'est-il besoin de faire une seconde fois la revue des qualités qui composent le naturel du philosophe ? Tu t'en souviens ? Nous avons vu paraître l'une après l'autre la force, la grandeur d'âme, la facilité à apprendre, la mémoire. Alors, tu nous objectas qu'à la vérité, il était impossible de ne pas se rendre à nos raisons, mais qu'en laissant de côté les discours et en considérant la conduite des philosophes, chacun verrait bien que les uns sont des hommes inutiles et que les autres, en bien plus grand nombre, sont des gens tout à fait pervers. Après nous être mis à chercher la cause de cette accusation, nous en sommes venus à examiner pourquoi le plus grand nombre des philosophes se compose de gens pervers. Et voilà ce qui nous a obligés à tracer encore une fois le caractère du vrai philosophe.
C'est vrai.
Nous avons donc maintenant à considérer les causes qui dénaturent ce caractère dans le plus grand nombre des philosophes. Comment il n'échappe à la corruption qu'un bien petit nombre, ceux qu'on appelle, non pas méchants, mais inutiles. Nous considérerons ensuite les hommes qui affectent l'imitation de ce caractère et s'attribuent ce rôle. Nous verrons comment, avec leur nature,
Ils usurpent une profession dont ils sont indignes et qui est au-dessus de leur portée. Donne dans mille écarts et occasionne le décrit universel où se trouve, selon toi, la philosophie. Mais quelles sont les causes de corruption pour le philosophe? Je vais te les exposer, si j'en suis capable. D'abord, tout le monde conviendra avec moi que ces heureux naturels qui réunissent toutes les qualités que nous avons exigées du philosophe accompli apparaissent sur la terre rarement et en petit nombre. Qu'en penses-tu? Oui, on n'en peut pas douter. Ils sont en bien petit nombre. Et vois quelle foule de causes et de causes puissantes conspirent à les corrompre. Quelles sont-elles? Ce qu'il y a de plus étrange à dire, c'est que l'âme du philosophe se perd et se laisse détourner de la philosophie par les qualités mêmes que nous avons admirées en lui. Je veux dire la force, la tempérance et les autres qualités dont nous avons fait l'énumération. Cela est bien étrange, en effet. Ce qui pervertit encore son âme et l'arrache à la philosophie, c'est tout ce qu'on regarde parmi les hommes, comme les biens, la beauté, les richesses, la force du corps, les grandes alliances et les autres avantages de cette nature. Tu dois comprendre en général ce que je veux dire. Oui, Socrate, mais je te verrai avec plaisir me l'expliquer plus nettement. Saisis bien ce principe général et tout ce que je viens de dire, loin de te paraître étrange, sera pour toi de la plus grande évidence. Comment ? Chacun sait que toute plante, tout animal qui ne trouve en naissant ni la nourriture, ni la saison, ni le climat qui lui conviennent, se corrompt d'autant plus que sa nature est plus vigoureuse, car le mal est plus contraire à ce qui est bon qu'à ce qui n'est ni bon ni mauvais. Oui, cela est certain. Il est donc raisonnable de dire qu'une nature excellente avec un régime contraire devient pire qu'une nature plus médiocre. Oui, Socrate. Affirmons également, mon cher Adimante, que les âmes les plus heureusement douées deviennent les plus mauvaises de toutes par la mauvaise éducation. Crois-tu en effet que les grands crimes et la méchanceté consommée partent d'une âme vulgaire et non d'une âme pleine de vigueur, dont l'éducation a dépravé les excellentes qualités? Et penses-tu qu'une âme faible puisse jamais faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal? Non, je pense comme toi, Socrate.